Voilà. Donc effectivement, moi je vais essayer de vous parler un petit peu de qualité de l'air et de solutions pour améliorer la qualité de l'air. Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que je remplace ici Jean-François Doussin qui était un excellent orateur. Donc je vais essayer de faire mon mieux pour vous amuser sur les 20 minutes de temps de parole que j'ai. Alors j'ai juste besoin de faire une petite gymnastique ici. À moins... Non, il ne veut pas. Hop. Ouais, je vais le mettre, pas de problème. Alors la technique veut pas. Vous avez essayé tout à l'heure ou pas? Alors vous voyez, quand on essaie de faire le malin, je vous avais dit que c'était une mauvaise nouvelle pour vous. Parfois, on va juste on va voir si ça veut bien. Voilà. Alors très souvent, quand on parle de qualité de l'air, on oublie un petit peu ce que ça pouvait être. Donc je me suis permis de mettre ici une petite vidéo que vous trouverez tous sur Internet qui reprend un petit peu le fameux épisode de pollution de Londres, qui est un des grands épisodes qui a marqué un petit peu le domaine de la pollution de l'air. Grand épisode des années 50, où sur une période de 48 heures, à peu près 4 à 5 000 personnes, je ne me souviens pas exactement du chiffre, sont mortes à Londres du fait de la pollution de l'air. Alors on se dit que ce genre de choses ne peut plus exister, que c'est des choses qu'on n'a jamais connues, que ça n'existe pas. Donc, je vais juste laisser passer quelques images, juste pour vous rappeler ce que ça peut être, une ville dans laquelle aucune mesure sur la qualité de l'air n'est prise, à quoi ça peut ressembler. Alors il y a quelques... Voilà. Ces images-là sont prises en plein jour. C'est pas la nuit, c'est pas le soir, c'est à midi. Et vous voyez un policier qui est devant un bus pour ouvrir le chemin à un bus afin qu'il puisse circuler sans aucun problème. Donc voilà à quoi peut ressembler la qualité de l'air aujourd'hui si par exemple à Paris il n'y avait pas eu sur les 20 ou 30 dernières années des mesures pour améliorer la qualité de l'air. On serait dans cette situation-là. Donc heureusement, les gens brillants et intelligents ont décidé qu'il fallait agir, donc il y a eu des mesures qui ont été prises. Donc je pourrais laisser la vidéo, ça m'éviterait de parler, mais je pense que c'est pas l'objectif ici. D'autres solutions ont été proposées, dont celle-ci, qui a été réellement mise en œuvre dans les années 50. Si on n'avait pas fait un petit peu de progrès, on serait tous en train de se promener avec des masques comme ça. Ce serait rigolo, mais je pense que notre vie aurait été assez, assez désagréable. Alors juste un petit cours de chimie atmosphérique, quelques transparents, juste pour vous montrer où on va et comment on forme l'ozone. Il y a de l'ozone normalement dans l'atmosphère qui interagit avec la lumière, qui va interagir avec un certain nombre de polluants, les composés organiques volatiles, qui vont interagir eux-mêmes avec les oxydes d'azote, et au final ça fait un cycle catalytique qui crée de l'ozone. Alors pourquoi j'insiste sur le fait catalytique, c'est que de petites teneurs peuvent avoir de très grands effets parce que c'est un cycle chimique extrêmement efficace, et c'est cette chimie-là qui conduit à la création d'ozone dans l'atmosphère, qui est un vrai problème. Je suppose qu'à Paris, comme moi à Lyon, vous faites tous les étés face à des pics de pollution à l'ozone, et donc vous savez de quoi je parle. Voilà. Et donc c'est ce qui a conduit à l'augmentation de l'atmosphère, de l'ozone dans l'atmosphère ces dernières années, qui est devenu un vrai problème. Donc vous croyez que la pollution de l'air, c'est peut-être un problème du passé. Et vous trouverez sur Internet des belles photos de Paris lors d'épisodes de pollution. Donc certes, il y a des vrais problèmes encore en France et en Europe, mais il y a aussi des vrais problèmes en Chine. Ça, c'est encore une photo prise, par exemple, à Shanghai, et c'est une photo en plein jour. Donc ce que je vous ai montré d'il y a 50 ans à Londres existe toujours sur cette planète, peut-être plus en France, tant mieux pour nous, mais d'autres pays font toujours face aux mêmes problèmes. Et c'est un vrai enjeu sanitaire, mais également un vrai enjeu économique. Alors, comment remédier à cette solution? Ben écoutez, c'est simple, il faut éliminer les rejets. Alors pour éliminer les rejets, ce qui a été mis en place, c'est les pots catalytiques. On a tous des voitures, où vous allez bientôt en avoir, je ne sais pas si vous en avez déjà, mais toutes les voitures sont équipées maintenant depuis quelques décennies d'un pot catalytique qui permet de faire un traitement des émissions en termes d'abattement d'oxyde d'azote, les fameux NOx, mais également d'autres espèces chimiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces processus. On peut se poser la question, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas ? La réponse est oui, ça marche même très bien. Voilà l'évolution des émissions en oxyde d'azote, donc NOx, c'est en France, c'est des sources ADEME, bon, ça ne se voit pas très très bien. 1980-2010, on voit bien qu'à partir des années... c'est 60 ici, à partir des années 80, il y a une vraie diminution, ou 90, il y a une vraie diminution des émissions en oxyde d'azote. Il faut quand même avoir en tête qu'en même temps, le parc automobile s'est fortement accru, et qu'en fait, la diminution en termes d'émissions a été extrêmement efficace. Mais le problème, c'est que lorsqu'on regarde actuellement les teneurs en oxyde d'azote, donc les émissions baissent, mais finalement, depuis les années 2000, donc là, c'est les oxydes d'azote en Angleterre, ici à Londres, on remarque bien que suite à l'introduction du pot catalytique, les concentrations diminuent, mais elles s'arrêtent de diminuer, elles atteignent un plateau. Et si on prend les projections que fait l'Union européenne sur différents polluants, donc SO2, oxyde d'azote, composés organiques volatiles, ammoniac et les particules fines, toutes les projections à partir des années 2000, pour faire simple, pour certaines des années 2010, c'est-à-dire en ce moment, tendent vers un plateau. C'est-à-dire que toutes les améliorations techniques en termes d'émissions ne sont pas suffisantes pour désormais continuer à baisser les émissions de polluants, ou en d'autres termes, à améliorer la qualité de l'air. Alors on peut discuter des raisons de ces phénomènes-là. Mais donc pour... être au niveau des réglementations qu'impose l'Europe, il va falloir trouver d'autres solutions. Parce que vous savez comme moi certainement que l'Île-de-France ou la région Rhône-Alpes ou Lyon sont des régions en France qui actuellement ne sont pas conformes en termes de qualité de l'air, non conformes aux règles européennes de qualité de l'air et sont actuellement pénalisées financièrement par la communauté européenne. Donc il faut trouver des solutions. Une solution serait finalement d'agir directement sur les oxydes d'azote. C'est une autre manière de présenter le petit cycle chimique qui conduit à l'ozone. Les oxydes d'azote sont le moteur qui permettent la création d'ozone dans la troposphère. Tout ce qui va pouvoir piéger les oxydes d'azote sur une surface, quelle que soit sur cette surface, est un moyen d'améliorer la qualité de l'air et est un moyen potentiel de réduire les polluants dans une ville. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus présent comme surface dans une ville ? Eh bien, le bâti. C'est assez évident. Prenez une rue, vous regardez autour de vous. Là, je connais pas bien Créteil, hein, mais je suppose que si je regarde là-bas derrière, je vais voir du bâtiment. Et si on réfléchissait deux minutes, on peut se poser la question, est-ce qu'on pourrait rendre ce bâti actif de telle manière à ce qu'il piège les polluants présents dans l'air ? Alors, c'est la question qu'on s'est posée dans un projet européen que je coordonne, qui est intitulé Photopac. Donc, on a essayé de voir si on pouvait améliorer la qualité de l'air urbaine par des procédés photocatalytiques, en tout simplement enduisant des bâtiments avec un matériau qui est actif. Alors si vous êtes intéressé et pas dépité suite à ma présentation, il y a un site web, vous aurez plein d'informations, vous aurez également mon adresse mail sur ce site web et je serai heureux de répondre à toutes vos questions si je peux. Alors c'est quoi la photocatalyse ? Je pensais que j'avais un autre. La photocatalyse c'est très simple, c'est quelque chose qui est connu depuis quelques décennies maintenant. C'est à base d'oxyde de titane. L'oxyde de titane est un élément extrêmement courant dans le monde réel. Il est présent dans le sable. Hein, c'est l'huitième élément sur Terre. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très répandu. Il a une propriété très particulière. C'est un semi-conducteur. Donc, quand vous le mettez sous la lumière, ce semi-conducteur va absorber la lumière, va faire un certain nombre de processus, dont le plus important est finalement de créer des radicaux libres à sa surface. Alors les radicaux libres, vous les connaissez peut-être plus par les pubs sur les publicités sur tout ce qui est vieillissement de la peau. On a les mêmes radicaux libres appliqués dans d'autres processus chimiques. Ici, on va les utiliser pour faire de la dépollution. Et en particulier, c'est le radical qui est ici, qui est le radical hydroxyle OH. Alors notre idée est très simple. On a ce cycle chimique, les petites voitures qui émettent des polluants et d'autres activités industrielles et humaines en général qui émettent des polluants. Si on arrive à avoir un bâti qui est actif, il va pouvoir piéger un certain nombre de polluants. Et dans ce cas-là, on peut s'en servir pour essayer d'améliorer la qualité de l'air. Alors, des tels bâtiments existent. Il y a une église qui a été construite maintenant dans les années 90 à Rome, qui est faite en béton photocatalytique. Alors l'architecte qui a construite a dit qu'elle serait à tout jamais blanche. Pourquoi ? Parce que ces matériaux ont été mis initialement sur le marché pour leur propriété auto-nettoyante. Donc effectivement, cette église est censée rester blanche éternellement, parce que les propriétés photocatalytiques du matériau vont finalement l'auto-nettoyer constamment. Et on s'est rendu compte que peut-être ces mêmes propriétés auto-nettoyantes pouvaient avoir des propriétés auto-dépolluantes. Voilà. D'où cette idée d'utiliser le bâti pour dépolluer. Alors les questions qu'on s'est posées, c'est de savoir est-ce qu'on peut résoudre un vrai problème environnemental avec ces questions. On s'est posé la question de savoir si c'était efficace ou pas, parce que ces produits existent sur le marché. Il y a plusieurs villes sur Paris déjà qui sont enduites de ces matériaux, plusieurs rues, pardon, sur Paris, qui sont enduites de ces matériaux. Donc on s'est posé la question, est-ce que ça marche pas? Est-ce qu'il y a des bienfaits, des méfaits? Et quelles sont les recommandations qu'on peut faire en fait au pouvoir public quant à l'utilisation de ces matériaux? Alors c'est un consortium européen, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon je vais vraiment utiliser tout mon temps. Déjà j'essaie d'être assez rapide, j'espère pas trop. La première question qu'on s'est posée, c'est de savoir, bien, ces matériaux existent, ils sont commerciaux, prenons un échantillon, allons le tester dans le laboratoire. Chose simple, a priori. Donc on a pris un béton photocatalytique, on a construit un tout petit réacteur, c'est notre vision de la qualité de l'air urbaine. Ça fait 30-40 cm de long, peut-être 2 000 litres de volume, donc quelque chose d'extrêmement simple. À l'intérieur, vous pouvez peut-être distinguer ici une petite plaque en verre qui est recouverte de ce béton photocatalytique. L'idée est toute simple. On peut injecter dans un tel réacteur, ici d'un côté, ou peu importe, ici d'un côté, un gaz contenant un polluant, et on mesure en sortie est-ce que ce polluant disparaît ou pas lorsqu'on allume des lampes qui sont ici insérées dans ce capot qui est posé sur l'ensemble. Alors voici le genre de résultat qu'on obtient. Alors je vous rassure tout de suite, je vais avoir extrêmement peu de courbes, donc ça va être extrêmement simple. On va se focaliser ici sur les oxydes d'azote qui sont ici, on va prendre la courbe noire, les NOx, les oxydes d'azote. Finalement, quand on injecte dans le réacteur et qu'on laisse stabiliser un petit peu les concentrations dans le réacteur, on injecte ici 40 ppb, ce qui est déjà quelque chose de relativement pollué par rapport à ce qu'on peut trouver dehors. Enfin bon, on fait ce qu'on peut. Par contre, dès qu'on allume et dès qu'on met de la lumière dans le système, qu'est-ce qui se passe? On voit bien qu'il y a une diminution des oxydes d'azote. La conclusion simple, et je pourrais rentrer dans beaucoup plus de détails ici, c'est dans le principe, ça marche. Quand vous avez des oxydes d'azote en présence de ce béton photocatalytique ou d'un matériau photocatalytique, vous pouvez ici, dans les conditions de cette expérience précise-là, diminuer d'un facteur 2 la teneur dans le gaz. Donc oui, dans le principe, ça marche. Donc on est passé à une vision un petit peu plus complexe de la qualité de l'air urbain en faisant des expériences en chambre de simulation. Donc ici, vous voyez des tubes néons. C'est les mêmes que vous allez trouver lorsque vous êtes dans les salons de bronzage. C'est exactement la même chose. Ici, vous voyez un petit peu quelque chose qui brille. En fait, c'est un grand sac Teflon. C'est un grand sac Teflon. Il doit faire, je ne connais pas exactement le volume de cette chambre, mais il doit faire une vingtaine de mètres cubes. Donc peut-être la moitié du volume compris là au-dessus de l'estrade, dans lequel on a mis des grandes plaques d'un mètre carré recouvertes de ce béton photocatalytique. Et qu'est-ce qu'on a observé? Typiquement, exactement la même chose. Donc ici, ça, c'est une courbe qui présente le même genre de résultat à différentes humidités relatives. Si je me focalise sur la courbe du milieu et si je prends toujours les oxydes d'azote, qui cette fois-ci est la courbe orange, ça, c'est pour être sûr de vous perdre, de ne pas utiliser les mêmes codes couleurs. Vous voyez que dès qu'on allume, en fait, on a une chute bien plus rapide des oxydes d'azote. Donc là encore, en changeant de réacteur, en changeant d'échelle, on a remarqué que finalement, ces bétons photocatalytiques étaient efficaces. Bon, ça c'est la vision du chercheur dans son petit labo, tout marche bien, tout le monde est beau, le monde est parfait, et tout va bien. Se pose évidemment la question d'aller tester ça dans le monde réel. Alors si je vous pose la question à Paris ou dans une autre grande ville, quels sont les endroits les plus pollués? Ça va? Métro? Pas loin. C'est les tunnels. Les tunnels, c'est un milieu qui est extrêmement pollué. Donc on a décidé, on a pris notre courage à deux mains, on est allé vivre pendant quelques semaines dans un tunnel à Bruxelles, donc qui est le tunnel Léopold II. Qui est un des plus grands tunnels urbains d'Europe, puisqu'il fait une dizaine de kilomètres de long. Il croise Bruxelles d'est en ouest sur l'ensemble de la ville. C'est un tunnel extrêmement dense. Hein. Il est aussi, en termes de circulation, il est aussi dense que les tunnels les plus denses sur Paris, puisqu'on est à quelques milliers de voitures heure en moyenne sur une journée. Donc c'est vraiment quelque chose de relativement dense. Donc qu'est-ce qu'on est allé faire? On est allé prendre une section de ce tunnel. On a pris une section d'un petit peu moins de 200 mètres qu'on a entièrement rénovée. On a rénové, on a refait les parois du tunnel. Je peux avoir une petite photo ici. On a refait les parois du tunnel. On a enduit ce tunnel d'un béton photocatalytique. Bon, c'est pas tout à fait juste. On a enduit d'un enduit photocatalytique, pour être simple, qui a simplement été projeté sur les parois du tunnel. On a rajouté de la lumière, parce que comme je le disais tout à l'heure, photocatalytique implique des photons, donc de la lumière. Donc on a rajouté de la lumière artificielle pour stimuler ce matériau photocatalytique. Et on a essayé de comprendre ce qui se passait. Donc on a une section de 200 mètres de long, avec deux stations de mesure, en amont et en aval de la section rénovée. Et on a essayé de voir, en ayant appliqué cet enduit, en ayant changé l'éclairage dans le tunnel, si finalement ça a amélioré la qualité de l'air. Alors, le métier de scientifique est super, on va dans des endroits magnifiques. Mais je peux vous dire que vivre pendant quelques semaines dans un tunnel sous terre, c'est une expérience de vie. Ça vous permet de relativiser un certain nombre de choses. Alors, je ne sais pas si celle-ci va fonctionner. C'est une deuxième vidéo. Non. C'est pas grave. Hop. Alors, il y a des belles vidéos qui ont été faites par différentes télévisions. C'était assez intéressant à montrer, mais ce sera pour une autre fois. De toute façon, je vais manquer de temps. Alors là, c'est un des résultats que nous avons obtenus sur les oxydes d'azote, qui compare la qualité de l'air dans le tunnel de lampe allumée, lampe éteinte, lampe éteinte, lampe allumée. Lampe éteinte, c'est la qualité de l'air en temps normal. En lampe allumée, c'est la qualité de l'air si elle s'améliore. Et ce qu'on a tracé, c'est une corrélation entre les oxydes d'azote et le CO2. Simplement, le CO2 est un traceur de l'activité automobile ou le trafic. Et en fait, si la quantité en ox diminue, la pente ici aurait dû être très différente de celle-ci. Et elle ne l'est pas. Conclusion, nous n'avons pas vu d'amélioration de la qualité de l'air. On est arrivé à la conclusion que c'était inférieur à 2%. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est simplement qu'on s'est vraiment mis par volonté dans des conditions extrêmes de pollution. Mais on avait un petit peu sous-estimé le côté extrême de la pollution dans ce tunnel. Il s'est avéré qu'en fait, il y avait tellement de circulation que le matériau était passivé au bout de quelques heures, complètement recouvert par de la suie, par de l'huile, par toutes les projections automobiles qu'on pouvait imaginer. Si on revient un petit peu en arrière sur la photo du tunnel, ça se voit mal, mais là, c'est un tunnel, il est vraiment dans un sale état. Et je comprends désormais pourquoi. Donc dans le tunnel, ça n'a pas marché. Donc on s'est posé la question d'aller faire des mesures en milieu extérieur. Donc là, c'est une expérience qui avait été menée en Italie, il y a un an maintenant, à Bergame, où nous avons construit sur un site industriel une rue Canyon. Vous voyez un petit peu ici une rue artificielle. Donc c'était une rue artificielle de 50 mètres de long sur 5 mètres de haut qui voulait simuler un petit peu une rue standard qu'on peut trouver un petit peu de partout. En fait, nous avons même fait deux rues identiques. Une recouverte, celle-ci recouverte de matériaux actifs, celle-ci qui était une rue témoin ou une rue référence, avec notre instrumentation placée entre les deux afin de pouvoir mesurer la qualité de l'air dans les deux rues. Donc une qui devait être dépolluée, une qui devait être la référence. Voilà une petite photo. Donc vous voyez que celle-ci est très blanche. C'est le béton que nous avons utilisé. C'est un béton blanc, hein, simplement. Alors que celle-ci, on voit le matériau brut. Exactement la même photo, encore une fois. Et voilà un petit peu les résultats que nous avons pu obtenir, là, sur le monoxyde d'azote. Donc, en rouge, vous avez la rue Canyon. En bleu, vous avez la rue traitée. Donc, la bonne chose, c'est que nos instruments marchent bien, ils mesurent la même chose. Mais au final, on n'est pas arrivé à montrer une propriété dépolluante. Donc je peux continuer. Voici une journée moyenne, donc ça c'était l'ensemble des données. Voici une journée moyenne, cette fois-ci pour le dioxyde d'azote. vous voyez bien que les journées moyennes sur deux côtés, des deux côtés dans les deux rues est exactement la même. Donc c'est en général. On peut cependant se poser la question de savoir si ça marche ou pas. Alors on peut après, je peux répondre aux questions et vous dire pourquoi on n'a pas vraiment vu d'effet. Mais grâce à nos expériences de laboratoire, on a pu quand même déterminer l'efficacité de ces matériaux ou la réactivité de ces matériaux qui a pu être mise dans des modèles de simulation atmosphérique. Et là, c'est un exemple d'une ville en Allemagne, Stuttgart, de mémoire, où une simulation a été faite sur une rue et on voit, et on voit en code couleur ici que le pourcentage d'abattement en ox qu'on peut obtenir. Donc si on prend par exemple cette couleur-là ou une couleur mauve ici ou du vert, on va avoir un abattement possible de quelques pourcents sur les NOx. Alors quelques pourcents, petit, faible, grand. Je vais tout de suite mettre ça en perspective par des choses que vous avez déjà tous entendues. Donc la photocatalyse peut-elle améliorer la qualité de l'air? En laboratoire, on a vu que ça marchait. Dans le monde réel, on a eu des difficultés, on n'a pas vraiment vu. Alors on peut l'expliquer partiellement. Cependant, des matériaux et différents matériaux sont sur le marché, qui sont plus ou moins efficaces. La simulation nous montre qu'on peut avoir des réductions à maximum de 10% en milieu urbain, plutôt de l'ordre de 4, 5, 6%. Est-ce que c'est important ou pas? Vous avez tous entendu parler des zones d'action prioritaires pour l'air, ces fameuses ZAPA qui ne vont pas être mises en place, enfin bon, peu importe, qui avaient pour but de réduire le trafic en centre-ville. Sur Lyon, il y avait un plan très marqué d'abandon de la ville, du centre-ville, des différentes voitures soi-disant polluantes. Une ZAPA conduit au même type d'amélioration de la qualité de l'air, mais sans changement d'habitude. Donc là aussi, c'est une solution, ce n'est pas une solution miracle, mais c'est une solution en plus, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir, par ce genre d'action, le même bénéfice que d'interdire toutes les voitures dans un centre-ville, en fait. Peut-être que c'est un choix stratégique différent, parce qu'on dit, allez-y, vous pouvez continuer à polluer, on va trouver des moyens pour améliorer, donc c'est pas très... On peut se poser la question, mais, mine de rien, quelques pourcents d'amélioration, ce n'est quand même pas négligeable. Parce que c'est relativement simple à mettre en œuvre. Donc voilà, j'ai un petit peu dépassé mon temps. Je suis désolé. Merci pour votre attention.